voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes.
Il y a du neuf sur RMC.
Il te va bien ton pantalon, on sait très bien que ça veut dire que t'es bien foutu.
Le mois dernier, un monsieur qui a posé son bras sur mes seins dans le métro, prétextant qu'il y avait du monde.
Roselyne Bachelot prend les commandes de 15h à 16h dans 100% Bachelot.
Ça m'est déjà arrivé de me faire suivre.
Est-ce que t'as tes règles aujourd'hui? Ça arrive.
C'est un homme qui me touchait les fesses avec sa main.
Les garçons, vous avez plus la bagarre?
Et la femme, elle est plus pour le ménage et pour le secrétaire.
Roselyne Bachelot.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, le gouvernement lance une campagne contre le sexisme. On en est encore là, aujourd'hui, en 2016. Le constat est accablant. Après un siècle de lutte pour l'égalité homme-femme, après avoir concocté toutes les lois possibles et imaginables dans ce domaine, on est loin du compte, dans la politique, dans l'entreprise, dans la vie familiale. Et pourtant, certains pensent qu'on en fait trop. Aux machistes, aux intégristes, en un mot, aux gros lourd, je dis, moi, qu'on n'en fait pas assez. J'attends vos témoignages, vos indignations, vos solutions au 32-16, sur RMC, bien
RMC
sûr.
Jusqu'à 16h, 100% Bachelot.
Bonjour Rémi. Alors, j'espère, mon petit Rémi, que tu ne fais pas partie de ces affreux sexistes que
pas
je dénonce.
Je suis ravi de travailler avec une femme, en l'occurrence avec toi. En revanche, je te prierai de ne plus de faire de réflexion sur mes beaux yeux bleus, je trouve ça un peu sexiste.
Ah voilà. En tout cas,
RMC, Top News, 100% Bachelot.
Oui, on voulait juste dire une chose, c'est vrai qu'il y a eu un oubli hier,
ouais,
et c'est important, on rectifie ça.
Oui, on rectifie ça parce qu'on a consacré notre émission au handicap, à l'autisme. On a eu des tas d'appels et j'ai oublié de dire que notre intervenant, Florent Chapelle, avec Sophie Le Callennec, avait écrit un très beau livre, Autisme, la grande enquête, livre très utile. Je répare ma faute aujourd'hui, Rémi.
Et puis juste un mot sur le livre aussi d'Eglantine Émeillé, qui était
exactement,
là avec nous hier.
Exactement, voilà.
Le voleur de brosse à dents.
Le voleur de brosse à dents, super.
Roselyne, les sujets qui te font réagir dans l'actualité aujourd'hui. D'abord, quelque chose qui t'énerve vraiment, enfin décidément, hein, à part le sexisme, c'est la grève aujourd'hui contre la réforme des collèges.
Alors, tu vas dire que je suis pas de bon poil hein, aujourd'hui. Alors, moi, je comprends évidemment que les enseignants aient des motifs de mécontentement, mais vraiment faire grève en début de rentrée, au moment où les élèves et les profs font connaissance, où les sixièmes découvrent le collège, c'est mauvais pour les enfants, pour les familles, pour les profs. D'ailleurs, ils sont en train de se planter sur leur grève qui n'a aucun succès. Voilà, note de rentrée pour eux, 0 sur 20.
Apple présente son iPhone 7 déjà, et je sais pas pourquoi, mais je sens que tu vas pas l'acheter.
Bingo. Je me demande si Apple ne nous prend pas parfois pour des gogos. Quelques améliorations mineures sur fond d'obsolescence programmée de votre appareil. Un petit gâchis quand même, hein.
Et puis, un petit coup de cœur, oui, il y avait une musique, elle part pas. Enfin bref, tout va bien, ça doit être Apple qui fait ça. Un petit coup de cœur, tout de même, Madame Grognon, s'il vous plaît.
Oui, bon, je sais, je vais essayer de me rattraper. Parce que je le décerne, ce coup de cœur, à l'équipe de l'émission de télé C'est à vous sur France 5, qui a repéré que l'éditeur avait caviardé deux chroniques d'Éric Zemmour. Bravo aux trop rares journalistes, pas toi,
oui,
Rémi,
non, mais
bien
c'est
sûr.
Vrai qu'il y a des journalistes qui lisent les livres de leurs invités.
Il y a des journalistes qui lisent les livres de leurs invités, c'est le cas de C'est à vous. Et en particulier, une des chroniques qui a été caviardée, c'est celle où Zemmour proposait sérieusement de bombarder Molenbeek. Bon, bah, j'ai sans doute mauvais esprit, hein, je le sais, voilà. Bah.
Vous êtes d'accord? Pas d'accord avec Roselyne? Vous voulez parler d'un autre sujet qui vous
touche?
Tout
à fait possible.
N'hésitez pas, vous nous appelez au 3216.
Opinion, solution, 100% Bachelot sur RMC.
Je veux que la honte change de camp. Les paroles sont de la ministre des Droits des Femmes, Laurence Rossignol, qui lance aujourd'hui une nouvelle campagne culturelle contre le sexisme ordinaire. Réflexion machiste, regard ou geste déplacé, inégalité dans les salaires, dans les fonctions, stéréotypes. 4 femmes sur 10 disent avoir été directement confrontées à ce sexisme. Roselyne, il y a du boulot.
Il y a du boulot, oui, parce qu'on parle beaucoup des différences de salaire, le fait que les femmes sont pas suffisamment représentées en politique, en particulier aux vrais postes de direction. Elles forment le gros bataillon du temps partiel subi. Mais il y a aussi toutes ces petites discriminations au quotidien, ces injures sexistes, ces propos paternalistes, des plaisanteries grasses, des plaisanteries assez. Et ce qui est bien, c'est que quand on interroge maintenant les hommes à 95%, c'est le Parisien qui le rappelle ce matin dans un très bon article, les 95% des hommes pensent que les femmes subissent des injustices liées à leur sexe. Alors, voilà, les hommes se mobilisent aussi, c'est pour ça que je suis très heureuse de recevoir un homme sur ce plateau, même s'il va peut-être passer un mauvais quart d'heure avec moi, on sait jamais, méfiez-vous, c'est maître Thierry Valla, et qui est un spécialiste de ces questions, et qui d'ailleurs tient un blog sur ces questions juridiques, et en particulier ces discriminations liées au sexe. Maître, comment fait un avocat pour qualifier une discrimination? À quel moment on passe de la courtoisie un peu gaudrioleuse et dont on dit qu'elle est bien française à un propos humiliant et passible de poursuite? C'est très compliqué.
Alors c'est effectivement très compliqué, d'autant plus que nous n'avions pas énormément de moyens au niveau législatif jusqu'à très récemment, notamment au milieu de l'entreprise. Il a fallu attendre la loi Rebsamen de 2015, donc l'an dernier, pour véritablement que le sexisme véritablement soit pris en compte dans le code du travail. Donc aujourd'hui, on a une définition, donc ce sont déjà des agissements, donc ça peut être des actes, des paroles, qui ont un but d'humiliation, dégradation, on a vraiment une approche aujourd'hui un peu plus fine par rapport au sexisme. Le problème derrière, c'est l'application.
Oui, parce que vous vous heurtez à plusieurs problèmes. Moi, j'ai l'impression quand même que les avocats sont pas très d'accord pour s'occuper de ce genre d'affaires. Et puis les juges, quelquefois, pas très à l'écoute. Je sais bien qu'ils ont d'autres sujets, peut-être plus graves, ça reste à prouver. Mais on n'a pas l'impression d'être très aidés par les professions du droit.
Ça a longtemps été tabou. Et notamment de nombreuses femmes n'osaient pas aller devant un avocat, un juge, porter plainte, tout simplement, lorsqu'il y avait des attouchements, lorsqu'il y avait des...
Quand c'est pas au commissariat avec certains policiers, écouter leur plainte.
Absolument. Alors, des femmes, ou même des hommes, d'ailleurs, hein, parce que le harcèlement en général, c'est pour ça que on en reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure, mais la campagne donc du ministère d'aujourd'hui, donc, s'adresse principalement aux femmes.
Spécifiquement aux femmes, oui.
Et je me suis senti un petit peu, ce matin, un peu discriminé en disant, mais tiens, voilà, on stigmatise les hommes une nouvelle fois, mais finalement, peut-être derrière...
Enfin, maître, ne pleurnichons pas. Les injures sexistes, elles s'adressent quand même dans la presque totalité aux femmes, hein.
Il est clair que les femmes sont particulièrement visées là-dessus. Mais Roselyne, je crois aussi que, autant le harcèlement, notamment dans les transports en commun, par exemple, les frotteurs, les mains aux fesses, on a entendu tout à l'heure, voilà, un bras, une main, voilà, qui dérape, bien évidemment, tout ça est totalement scandaleux et doit être réprimé. En revanche, et on revient sur notre propos initial, les paroles, la blagounette, toujours très lourde, elle va s'appliquer souvent aux femmes, mais j'allais dire ceux qui font ce genre de blagues, de propos, les tiennent également auprès des hommes. Ils peuvent également faire des blagues sur l'orientation sexuelle, sur la couleur de peau.
Ah, c'est vrai que sexisme et homophobie vont souvent de pair.
Voilà, on va retrouver des individus, pour ne pas dire des abrutis, parce qu'il faut bien appeler
vous pouvez y aller, maître Valla, des abrutis.
Là-dessus, donc évidemment, les femmes sont bien souvent au premier plan, mais il n'y a pas qu'elles. Et derrière, le phénomène du harcèlement, et j'en reviens au domaine que je connais bien, celui de l'entreprise, celui qui va faire des blagues sur tiens, t'as mis ta jupe aujourd'hui, tu vas demander une augmentation ou quelque chose, enfin, ou des propos de ce type là ça va être très très difficile pour les faire réprimer au prud'homme, par exemple, mais ça va s'adresser également aux collègues qui va être masculin, qui va être aussi bien
Allez, un appel au 32-16, celui de Guylaine. Roselyne, Guylaine, elle nous appelle de Daumont, c'est dans le Val d'Oise. Attention, elle va nous dire que c'est la faute des femmes.
Guylaine, bonjour. Vous trahissez la cause, Guylaine. Allez-y, bonjour.
J'espère en effet ne pas trahir la cause, mais c'est vrai que je trouve en tant que femme que même si certainement ça peut être très désagréable d'être parfois considérée comme un objet plus que comme une personne, je trouve que cette idée du sexisme nous amène un peu loin, qu'elle stigmatise parfois les hommes. On en arrive des fois à des extrêmes où on peut plus expliquer qu'une femme ne peut en effet pas forcément faire certaines tâches comme maçon, comme je ne sais pas quoi, parce que ça correspond pas forcément à sa corpulence, sa force physique, et que c'est pas pour autant qu'elle est inférieure. Et je trouve qu'effectivement, moi je pense qu'on aime charmer, les femmes se maquillent, s'habillent pour plaire, pour séduire. Donc autant on trouve ça très désagréable, un homme qui va vous parler d'une manière un peu brutale, grossière, parce qu'il est mal élevé, certainement d'ailleurs par une maman derrière qui a mal fait son boulot.
Non mais Guylaine,
autant je pense que moi je trouve ça charmant quand on nous fait des compliments, les femmes adorent ça et des fois elles disent
mais les hommes,
pas,
les hommes aussi
ça.
Hein. Je vous garantis aussi. Que mon complice Rémi, il proteste mais il adore que je lui dise que je lui parle de ses beaux yeux bleus.
Oui, c'est vrai. Je reconnais.
Non mais Guylaine, on est bien d'accord, on adore les compliments les hommes et les femmes, mais c'est pas de ça dont on parle cet après-midi dans 100%
après,
Bachelot.
Alors, maintenant, quelle est la proportion? Effectivement, je pense qu'on doit se poser des questions sur notamment la violence qui est faite aux femmes, et notamment en France, puisque je crois qu'on a un des records, en tout cas en Europe, de femmes qui subissent les coups de leur mari. Et ouais. Dans un pays, par exemple,
une femme pratiquement meurt sous les coups de son compagnon tous les deux jours
voilà.
Et demi.
Et une femme, et un pays où on considère les hommes très machos comme l'Italie, c'est là où, a priori, les femmes se seraient le mieux. Donc, effectivement, je pense que ça, c'est plus lié à l'éducation. Je pense que c'est lié aussi au comportement, certainement, des mamans. Un courage chez les femmes aussi, à un moment donné, peut-être qu'il faut avoir pour oser affronter l'éventuel mari brutal. J'en parle en connaissance de cause, donc je sais que c'est possible, c'est pas facile, mais à un moment, il faut avoir du courage. Et je pense que ça passe aussi par ça, c'est pas que des campagnes, c'est pas que dire aux hommes, soyez gentils, parce que c'est pas si simple que ça.
Merci.
Les femmes ont leur part de responsabilité aussi.
Merci Guylaine. Oui, vous avez raison, mais on porte le poids de millénaires de soumission et d'asservissement, et c'est pas facile de s'en tirer. C'est pour ça qu'il faut céder entre nous les femmes, et il faut que la société soit derrière nous quand on est victime de discrimination. Merci Guylaine de votre témoignage.
On va prendre le pendant, si tu le permets, Roselyne, c'est au 3216, Rémi qui nous appelle, donc un homme après une femme, et lui travaille dans un milieu très féminin.
Alors, Romain, bonjour Romain, ne me dites pas que vous... C'est Rémi. Ah, c'est Rémi, pardon. Pardon Rémi, c'est un très beau prénom,
oh,
Rémi.
C'est un très beau prénom.
Très
je
beau.
Je vous félicite, bravo.
Je trouve aussi, bonjour.
Bonjour Rémi. Alors, vous ne souffrez pas trop dans ce milieu, vous êtes commandé par des femmes?
Eh bien non, figurez-vous. Non, c'est ça qui est frappant, c'est qu'effectivement, ça fait 15 ans que je travaille dans un organisme de 1300 personnes quand même. Hein.
Oui.
Un organisme qui compte 80% de femmes dans son personnel, donc une très forte majorité de femmes. Eh bien, même dans ce milieu, même dans cet environnement, ce que j'ai pu constater, c'est que je n'ai jamais été témoin d'une remarque déplacée, d'une remarque sexiste d'une femme à l'endroit d'un homme. En revanche, malgré cette minorité, oui, j'ai déjà pu observer ou été témoin de remarques déplacées et sexistes d'hommes à l'endroit des femmes.
Donc, comment vous réagissez? Vous, Rémi, vous constatez qu'un de vos collègues fait une remarque déplacée, vous lui dites, vous lui signalez, je vous pose la question avec brutalité, vous vous dites que vous allez être stigmatisé ou ridiculisé en faisant ça?
Ah non, alors en plus, dans l'environnement dans lequel je suis, non, je vais avoir des supportrices, hein, si je me comporte comme ça, donc j'y vais très 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 volontiers, non, effectivement, pas méchamment, pas de façon brutale, mais oui, je fais une remarque en signalant que là, voilà, que c'est pas de bon goût, que c'est déplacé, que c'est tout ce qu'on veut, mais non, je réagis gentiment, mais je réagis.
Merci voilà. Rémi, merci et félicitations parce que vous êtes très courageux, c'est pas si facile que ça à faire. Merci à vous Rémi. Alors nos commentaires sont assez intéressants. Il y a là un homme qui se bat pour qui est au quotidien, dit ce qu'il faut faire, et puis une femme qui est plus réservée sur ses combats.
Le premier témoignage était assez intéressant et édifiant parce qu'il correspond à mon sens pas mal aux échos que moi je peux avoir dans mon cabinet de femmes qui viennent qui arrivent quand même à passer le pas et venir me voir pour essayer d'aller de l'avant cette peur quelquefois, on parlait de tabou tout à l'heure, d'exprimer une situation qui est la leur. Un exemple, dans le sexisme qui est aujourd'hui combattu par la campagne, on parle bien évidemment vous l'avez rappelé, des discriminations en matière salariale. On a 20% d'écart, grosso modo, en moyenne, par rapport, en faveur des hommes, par rapport au salaire féminin. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on fait derrière ? On a une loi aujourd'hui qui existe depuis 2014 sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Est-ce que cette loi est appliquée aujourd'hui ? Moi, je vous dirais que non. Bien sûr que non. Parce que soit les femmes ne viennent pas, ne réclament pas, ne vont pas aller voir leur patron. Bien sûr que c'est difficile. C'est difficile pour les hommes aussi, hein, pour avoir une augmentation. Là, je crois qu'on est tous à peu près sur le même ordre.
Mais Rémi l'a demandé depuis ce matin, voilà, il ne l'a toujours pas.
Oh, non, voilà. Tout va à Roselyne, on n'a plus rien. Donc.
Et donc, on a véritablement ce problème. Et les femmes ne vont pas demander leur dû, parce que c'est effectivement pour elle, il est totalement injuste qu'il y ait cette différence. Et qu'est-ce qu'on fait derrière ? Est-ce qu'il y a une application des lois, quelle qu'elle soit d'ailleurs, en faveur des femmes par rapport aux hommes ? Et donc on pourra bien faire, à mon sens, toutes les campagnes du monde. Alors c'est au niveau culturel effectivement que j'ai compris que cette campagne avait été initiée, mais
oui, mais il faut quand même bien les faire ces campagnes, parce que Maître, vous dites très bien, on a l'arsenal législatif, on a les lois d'égalité, en particulier en matière salariale, et pourtant il reste une discrimination, il reste des inégalités. Si on fait pas une campagne disant aux gens voilà, c'est votre affaire à vous, et les lois c'est bien, c'est le socle, mais ça suffit pas, on n'y arrivera pas.
Mais j'ai peur que la campagne mélange un peu tout. Enfin, je comprends le sens, mais la campagne va mettre sur le même plan les inégalités salariales, les blagounettes sexistes, le harcèlement, les attouchements dans les transports en commun, et donc c'est un espèce de pot...
C'est un méli-mélo, voilà, pour et donc, vous, ça aurait besoin d'être plus ciblé.
Oui, je pense.
J'ai quelques réactions sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de 100% Bachelot, notamment celle de Stéphanie, qui a 49 ans, qui nous écrit depuis Nice, dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Roselyne, c'est compliqué car en fait nous sommes tous sexistes d'une manière ou d'une autre. C'est intéressant comme réflexion. C'est notre éducation, donc on parle de culture là, et notre société. On veut parler d'égalité, mais moi je demande bien à mon mari de monter les courses ou de faire les travaux à la maison. Parce que c'est l'homme fort et ça m'arrange bien.
Oui, mais c'est vrai, on est compliqué. Moi, j'ai des copines féministes. Quand je regarde la façon dont, entre leur fils et leur fille, elles répartissent les tâches pour aider à la maison, il faut reconnaître que les garçons font des choses beaucoup plus intéressantes et les filles font les basses besognes. Et comme ça, on reproduit même les plus féministes d'entre nous, on reproduit un certain nombre de discriminations qu'on paie ensuite très cher. Je suis absolument d'accord. D'autres témoignages ?
Juste, oui, un autre message de Marguerite. Elle a 71 ans, elle est d'Aix-en-Provence. C'est un sujet qu'on a pas mal évoqué en parlant de sexisme, justement, c'est revenu dans les campagnes. Madame Bachelot, le sexisme est et sera toujours. On donne des poupées aux filles et des voitures aux garçons. Moi, je ne veux pas que mes petits-enfants jouent à la poupée. Pas chez mamie.
Eh ben, écoutez, cette mamie, on en reparlera tout à l'heure parce qu'on va voir, les solutions. Elle soulève un problème très important, c'est celui des stéréotypes.
Et on va remercier évidemment.
Maître Thierry Vallat, qui nous a dit à quel point c'était compliqué de faire les choses sur le plan juridique. Et on vous retrouve dans quelques instants sur le 32-16.
Exactement. Et là maintenant, ce qu'on veut, Roselyne, c'est des solutions maintenant. Comment faire concrètement pour lutter contre le sexisme ?
Mais il y a peut-être des choses qui ont marché.
Exactement. Vous avez des expériences, vous avez des choses en place, je sais pas, dans votre entourage, dans votre entreprise. Eh bien, appelez-nous pour témoigner. Au 32-16.
Tout de suite, hein, c'est sur RMC, c'est 100% Bachelot.
RMC jusqu'à 16h, 100% Bachelot. RMC jusqu'à 16h, 100% Bachelot.
La femme est l'avenir de l'homme.
Roselyne Bachelot.
On en est toujours là. Les femmes ne sont pas vraiment les égales des hommes et le gouvernement lance une campagne contre le sexisme. On a besoin maintenant au 32-16 de vos solutions. On arrête de gémir, on agit. Et pour trouver des solutions, nous avons avec nous Patrick Jean, qui est cinéaste, qui a fait des films formidables. La domination masculine, les hommes veulent-ils l'égalité. Également un documentaire, Conversation avec Françoise Héritier. Vous êtes formidable, Patrick. On est très heureux de vous recevoir et on va bientôt vous passer le micro.
Mais d'abord, on a un premier appel. Un appel au 32-16. Il s'appelle Fabrice, il a 43 ans. Il nous appelle de la Nièvre, si je me trompe pas.
Ah, mon département de naissance.
Bonjour, Fabrice. Une première solution, une première piste.
Alors,
Bonjour, Fabrice.
Bonjour, Fabrice. Alors, première solution.
Ah ben moi, je pense tout simplement qu'il y a une génération qui a raté l'éducation de leurs enfants. C'est-à-dire que le sexisme, ça s'apprend dès le plus jeune âge chez les petits garçons. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai mon fils, Pierre, qui a 10 ans. Eh bien, très tôt, je lui ai appris à respecter sa sœur et je lui ai fait comprendre qu'une femme, c'était fragile. Ça pouvait être fragile et qu'il fallait être bienveillant à l'égard de ce qui était peut-être le plus précieux au monde pour un homme. Et je pense que dans certaines familles, on met trop le garçon sur un piédestal et la fille, on la prend parfois pour au second plan, en tous les cas. Je dirais pas pour une moins que rien, je dirais pas jusque-là, mais au second plan, et qu'elle est là pour servir, ses frères.
C'est voilà. Vrai que ça s'apprend, Fabrice, vous avez raison. L'égalité, ça s'apprend dès le plus jeune âge et dans sa famille. Patrick Jean. Alors, qu'est-ce que ça suscite d'abord la réflexion de notre intervenant Fabrice? Les femmes vraiment fragiles?
Ah oui, alors la première des choses, c'est qu'il faut accepter l'idée, il faut regarder les choses en face. Nous vivons dans une situation où nous, les hommes, et notamment les hommes blancs, nous bénéficions, nous jouissons de ce qu'on appelle des privilèges. C'est-à-dire qu'on a dans tous les domaines de la vie, que ce soit le privé, le public, la politique, les salaires, y compris les rapports de violence au sein du couple, nous sommes en position de force. Nous sommes du bon côté quand on est homme dans cette société et dans toutes les autres d'ailleurs. Eh bien, on a plus de chances de mieux vivre, de mieux gagner sa vie et de moins subir un certain nombre de violences. Ça, c'est la première des choses. Quand on sait ça, je pense que ce qui est important, et ce que dit monsieur le révèle, c'est qu'il y a un manque d'information. Il faudrait que chacun sache que tout cela, ça existe depuis 200 000 ans, c'est ce que nous dit Françoise Héritier. Et que toutes les sociétés du monde, 200 000 ans, ça veut dire 100 000 ans avant la pierre polie. Donc avant, bien avant les premières villes et les premières sociétés.
Le sexisme n'est pas d'aujourd'hui, voilà. ça veut dire que
toute cette pensée d'inégalité entre les hommes et les femmes, entre le masculin et le féminin, ça s'est construit bien avant les premières villes, les premières sociétés, les premières civilisations, et toutes se sont construites sur ce modèle-là. Ce qui donne aujourd'hui une situation qui est évidemment très complexe, parce que contrairement à d'autres rapports de domination comme blanc-noir par exemple, le rapport de domination masculine, il se tisse dans des liens de filiation, de parenté, d'amour au sein des familles. Donc c'est très complexe. Voilà.
Donc c'est la solution, c'est que ça se tricote où ça, à l'école.
Alors je pense que la première chose, c'est de se dire que c'est ce qu'on appelle, je peux dire en gros mot,
oui,
un continuum. C'est-à-dire que tout ça se tient entre les livres pour enfants qui comportent du sexisme, l'inégalité salariale, l'inégalité en politique, les hommes qui cognent leurs femmes, le viol, etc. Tout se tient, tout se renvoie et tout ce système se solidifie par tous les bouts. Donc il faut le prendre par tous les bouts. Je vais vous donner un exemple, un petit scoop. Il y a une étude qui va sortir bientôt, qui est réalisée par un institut qui s'appelle Jump, qui travaille en Belgique et qui travaille maintenant en France. Et personne n'a encore eu accès à ces chiffres.
En avant-première, vous donnez 100% Bachelot. Merci,
voilà,
Patrick.
Tout à fait. Alors, la première des choses, c'est que c'est des sondages où les gens, les hommes et les femmes, ont répondu volontairement. Donc, les hommes qui ont répondu sont plutôt sensibles à la question du sexisme.
D'accord.
Eh bien, l'immense majorité d'entre eux pensent que la question du sexisme, c'est beaucoup moins important que le racisme, que l'homophobie, que l'anti-musulman, l'anti-juif, l'anti-tout. C'est-à-dire que la ségrégation et le rapport d'inégalité vis-à-vis des femmes, c'est toujours moins grave que tout le reste.
Bon, donc, vous êtes d'accord? Il faut faire des campagnes, il faut expliquer.
La preuve que même chez les hommes qui sont sensibilisés, il y a une méconnaissance totale de toutes les implications. Vous le disiez tout à l'heure, un jour sur deux ou sur trois, une femme qui meurt sous les coups, et encore, on sait que c'est plus que ça.
Oui, c'est plus que ça, oui.
C'est évidemment d'une première urgence, d'une première importance. Mais comme ça a 200 000 ans, on a l'impression que c'est comme ça, c'est naturel, ça a toujours été là, ça ne nous choque plus. C'est ça le problème. Deuxième point, un autre élément important, c'est que 80 11% des hommes sensibles qui ont répondu à ces questions nous disent que les victimes du sexisme, ce sont les femmes et les hommes.
Oui. C'est-à-dire alors qu'on ne comprend chiffres, pas le système. Les chiffres ne sont
c'est
pas
absurde.
Clairs.
C'est absurde. C'est comme si on disait le racisme, ben les victimes ce sont les noirs et les blancs. Ben alors, balle au centre, il n'y a pas de problème. Si tout le monde en est victime, personne ne l'est.
Oui,
donc ça veut dire qu'il y a une méconnaissance. Et ce monsieur a raison, il faut, même avant l'école, dès la crèche, cesser. C'est pas qu'il faut mettre quelque chose de nouveau. Il faut enlever dans nos pratiques, dans nos mots, mais c'est tout un travail, c'est complexe, tous ces stéréotypes. Et le problème, c'est que quand on a vu qu'il y a une ministre, madame Wallo-Belkacem, qui a voulu le faire via
les ABCD de l'égalité,
il y a 300-400 000 personnes qui ont défilé dans la rue pour dire on n'en veut pas, on veut du sexisme, on veut de l'inégalité. Et c'était et des hommes et des femmes. Donc c'est un rapport politique, un bras de fer politique sur lequel il faut peser de tout notre poids.
Alors, l'éducation, on vient de le dire, dès le plus jeune âge, dans la famille, ça peut être une des solutions. Mais c'est ce que fait Philippe, il a 48 ans et il nous appelle du Morbihan.
Bonjour Philippe.
Bonjour Roselyne.
Alors, qu'est-ce que vous faites dans votre famille? Comment vous abordez cette question de l'égalité, de l'éducation à l'égalité?
Je voulais revenir sur un propos qu'avait dit une personne tout à l'heure où elle disait la maman avait raté l'éducation de son enfant. L'éducation, il n'y a pas que la maman qui va jouer son rôle, le père va jouer son rôle aussi.
Ah oui, vous avez raison de le dire.
Voilà, il y a donc dans un milieu où moi j'ai trois garçons, donc c'est assez.
C'est assez masculin,
c'est assez masculin. Dès qu'il dérape sur un propos à propos d'une copine ou quoi que ce soit, ou par rapport à leur âge, il y a un apprentissage à faire aussi sur le comportement, ils sont repris de suite.
Vous laissez passer aucun dérapage?
Non, aucun. Que ce soit dès qu'il s'agit de d'un dérapage vis-à-vis d'une femme, sans dire que une copine, une jeune fille, une femme ou quoi que ce soit, c'est quelque chose de fragile. Mais voilà, ils sont de suite repris. Si c'est un dérapage verbal, bon, c'est le plus souvent c'est ça. Ils savent que il est hors de question de lever la main sur une de leurs copines.
Ah bah il manquerait plus que ça, oui.
Bah oui, voilà exactement, il manquerait plus que ça. Mais voilà, donc il peut y avoir le dérapage verbal parce que ça reste des gamins à qui il faut apprendre, mais ça passe par l'apprentissage, donc de la mère, mais du père aussi. Le père, il est là. Si le père dit rien, le gamin, à un moment donné, va dire,
exactement.
Il y a ce moment qui dit, papa dit rien. Donc si papa dit rien, qui ne dit mot qu'on sent, donc papa approuve.
Voilà, donc, vous avez raison, Philippe, de dire que l'éducation des enfants, ça se fait à deux, et que la vie du père... Philippe, pardon, excusez-moi, Philippe.
C'est Philippe.
C'est bien Philippe. Vous avez raison d'être un père vigilant sur ces sujets.
Comme quoi, Roselyne, je me permets, on va enchaîner avec Pierre, qui nous appelle au 32-16. Les
bonjour,
hommes,
Pierre.
Visiblement, sont très investis,
bonjour.
En tout cas, sont très intéressés par le sujet du sexisme. Encore un homme, Pierre, et il nous appelle de Lille.
Bonjour Pierre. Alors le Lillois, qu'est-ce qu'il dit de l'égalité homme-femme et des discriminations?
Bonjour Roselyne. Eh bien écoutez, en fait, il y a un phénomène psychologique qui s'appelle l'effet rebond des stéréotypes et qu'on observe chez les gens à qui on demande d'inhiber justement des stéréotypes et donc de ne pas discriminer les autres parce que les stéréotypes c'est quelque chose d'universel, involontaire et automatique qui consiste à en produire encore plus et en plus d'avoir plus de stéréotypes, il y a encore plus de discriminations. Et choses, donc ces campagnes, est-ce qu'elles sont vraiment efficaces? J'en doute. Et ensuite, on observe une deuxième chose qui est vraiment intéressante, c'est que les femmes produisent, enfin du moins collaborent elles-mêmes à la propagation de ces stéréotypes qui ont une forte valeur de vérité quand on regarde
alors,
ça d'un point de vue
scientifique. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse concrètement, Pierre?
Arrêtez ces campagnes, Roselyne, enfin, arrêtez complètement ces campagnes. On voit bien que sur le marché du travail, embaucher une femme en CDI, c'est compliqué parce qu'elle va tomber enceinte, qu'elle va passer plus de temps à la machine à café. Ça, ce sont des choses que l'on observe à niveau de... Quand une boîte poule, même quand on regarde les très grandes, on met des femmes comme ça, si jamais elles redressent la barre, c'est un exploit, on a fait de la responsabilité sociale. Et puis si elles coulent, c'est parce que c'était une femme. Arrêtons de parler de ça. Faisons des compliments aux femmes. Laissons-les vivre. Et puis, c'est pas pour une petite un petit compliment ou une petite tape amicale qu'il faut faire autant de campagnes et lancer un sujet.
Oui, mais enfin, quelquefois, qu'est-ce que vous appelez une tape amicale? Les tapes sont jamais amicales. Pierre, ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a des vrais grands problèmes de discrimination et que la campagne gouvernementale peut nous faire passer à côté des vrais problèmes, si je puis dire. C'est ça que vous avez voulu me dire.
elle est contre-productive et elle incite les femmes inconsciemment à rechercher des comportements, enfin voilà, à produire des comportements qui les...
C'est notre faute, Pierre. Eh ben dites donc, c'est dur à entendre.
Mais la science est dure, Roselyne, et c'est de la psychologie sociale.
On va stop. Merci, Pierre, de votre intervention, même si je ne la partage pas et loin de là. Patrick Jean, c'est de la faute des femmes?
Oui, évidemment, toujours. C'est un très bon exemple qu'on vient d'avoir là, parce que monsieur commence par un propos antisexiste, et il finit par quoi? Par dire, tout ça, c'est pas grave, qu'est-ce qu'il en sait? Moi, en tant qu'homme, je ne sais pas ce que c'est que d'expérimenter ce monde-là en tant que femme, de la même manière que vous ne savez pas ce que c'est que de l'expérimenter en tant qu'homme. Et d'ailleurs, je pense que si vous le saviez, vous seriez fâché. Donc, qu'est-ce qu'il en sait, ce monsieur, qu'une petite tape, un petit truc? Alors, il y a ce qu'on appelle le sexisme bienveillant, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que...
Oui, j'ai eu ça en politique pendant 30
mais
ans,
bien
je
entendu,
connais. Oui.
Tous les matins, on vous dit, ah, mais comme tu es jolie, mais comme tu es sexiste. Ça veut dire que, de manière se disant bienveillante, on vous ramène toujours à votre position infériorisée de femme qu'on ramène à son corps, à sa beauté, à son aspect sexy, etc. C'est du sexisme, mais qui se déguise derrière une attitude.
Patrick voilà. Jean, une anecdote personnelle. Vous savez comment j'ai été accueilli au Conseil général de Maine-et-Loire lors de mon premier mandat? Le président m'a présenté en disant « Et voilà Madame Bachelot dont chacun connaît le charmant sourire ».
Eh bien voilà. Voilà. Et donc effectivement, ça passe pour un compliment. Hein. C'est comme la... Alors, où est-ce qu'on s'arrête? La petite tape sur la fesse? Alors, le problème, c'est que on a tous, en tant qu'homme, la sensation que toutes les femmes sont dominées, sauf la mienne. C'est ça le truc. Alors, on va voir, moi je rencontre un tas d'hommes qui sont extrêmement exemplaires, qui vont vous décrire toutes sortes de comportements merveilleux. Je pourrais le faire aussi en ce qui me concerne. En réalité, quand on regarde les choses de manière un peu plus lucide, on voit bien que, moi qui travaille là-dessus depuis 15 ans, je suis bourré de réflexes conditionnés. Il m'arrive d'avoir des réflexes contre lesquels je ne sais même pas comment lutter parce qu'ils s'accrochent. Alors il y a un être de raison en moi qui dit « bah non, c'est absurde ce que tu ressens à tel ou tel endroit » et ça accroche parce que j'ai été fondé, structuré depuis ma naissance dans une éducation, une culture. Ça veut dire que il faut avoir le courage en tant qu'homme de se dire « je ne vais pas me culpabiliser pour 200 000 ans de domination masculine, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais à partir du moment où j'en prends acte et que je regarde que je vis dans une situation privilégiée, injuste de par ma naissance en tant qu'homme, eh bien, il me semble que j'ai l'obligation éthique de me poser une question et de savoir ce que je fais par
Alors,
rapport à ça.
Alors, on fait comment parce que pour remonter 200 000 ans d'oppression, vous trouvez finalement que les outils qui sont mis en cause à l'école ou dans le monde associatif, ils sont pas performants, ces outils. Il faut en changer quand quelque chose ne marche pas.
Est-ce qu'il ne faut pas tout simplement du temps aussi?
Alors, c'est ça que j'allais dire. Il n'y a jamais assez. Et ce qu'on peut dire, c'est que... à hauteur d'histoire de l'humanité, ça se passe instantanément. À hauteur d'une vie d'un être humain, ça paraît extrêmement long, ça met des siècles. Donc c'est très frustrant. Et nous, ce qu'on veut, et ce que les femmes surtout veulent, quand on les écoute, c'est évidemment un changement immédiat. C'est logique. C'est comme les Noirs, les Arabes, les musulmans veulent la fin du racisme tout de suite. C'est normal. Il n'y a pas de raison que ça dure encore des siècles. Alors, je pense que... Moi, je me parlais qu'en tant qu'homme. En tant que femme, il y a eu l'émergence depuis un siècle de tout un mouvement de femmes, mouvement féministe, etc., qui joue un rôle très important. En tant qu'homme, moi je me situe en dehors de cela, parce que je pense que la démarche n'est pas la même. Même si nous allons, les féministes on va dire, et les hommes qui leur donnent raison, vers le même point, c'est-à-dire l'égalité, nous marchons en sens inverse. Les femmes doivent gagner du pouvoir sur la société, sur elles-mêmes, sur leur famille, sur tout. Et nous, en tant qu'hommes, globalement, je dis bien globalement, on doit en perdre. Mais ça veut dire aussi, sans doute, individuellement. Quand je partage les tâches ménagères, admettons que je le fasse, c'est pas moi d'en juger. Si je partage les tâches ménagères avec ma femme, c'est du temps de loisir que je n'ai pas, ou du temps pour ma carrière que je n'ai pas. Donc je perds des choses. Il faut accepter de vivre avec cette idée. Et c'est ça, l'étude dont je vous parlais tout à l'heure, l'étude de Jump. Les hommes qui s'y expriment, ils montrent bien que l'égalité, c'est un beau mot, sur le papier, c'est formidable.
Mais ils veulent rien. C'est comment la parité en politique? On est d'accord pour la parité, mais on va prendre des places aux hommes.
D'où le besoin de garde-fous. Et les garde-fous, ça peut être le papier sur le frigo, où ensemble, pas l'un contre l'autre, ensemble, on note ce qu'on fait, et puis on en discute, et on se dit, effectivement, j'ai des mauvais réflexes, il y a des choses que je fais pas.
Très bon truc. C'est concret. On met un papier sur le frigo, et on fait la liste de toutes les tâches.
Et avant de partager, déjà, on fait l'état des lieux.
Et c'est pas mal.
Mais la parité en politique, ce n'est qu'une feuille sur le frigo de la politique, c'est la même chose. C'est une manière de se dire, de manière extérieure à nous, c'est-à-dire en dehors de nos intuitions, notre subjectivité, parce qu'on a toujours l'impression qu'on en fait plus que ce qu'on en fait, de se dire, où est-ce qu'on en est? On va le mesurer de manière rationnelle, et si jamais en politique, par exemple, on n'est pas plus ou moins à 50-50, ça veut dire qu'il y a des filtres. Et ces filtres, ils nous échappent peut-être. Alors évidemment, il y a des hommes qui sont là pour les garder, s'asseoir dessus, hein, c'est clair. Mais il y a aussi des filtres qui nous échappent dans notre vie quotidienne. Bah, il faut pouvoir en parler, travailler dessus.
Je trouve ça très bien, Rémi.
L'idée, tu vas le faire ce soir, moi je le fais.
L'idée de Patreon. Non, je t'encourage. Je vais le faire aussi.
Je vais le faire. Sur le frigo, la porte du frigo. Alors toi, tu fais ça, moi je fais ça. Ouais. Et on en parle.
On en discute. Voilà.
Et dans un instant, Roselyne, on va discuter justement.
Et oui,
on
toujours.
Va parler des sujets d'actualité qui te font réagir. Vous nous appelez au 3216.
Et si on veut d'ailleurs reparler de l'égalité homme-femme, on pourra aussi.
Évidemment. Et on peut aussi parler de la grève contre la réforme des collèges.
Exactement, oui. De Apple et
Apple
puis...
qui lance l'iPhone 7. Alors la grève de collège, toi tu trouves ça quoi?
Consternant,
Apple qui lance l'iPhone 7.
On nous prend pour des gogos.
Et puis l'équipe de C'est à vous sur France 5
qui lit les livres de ses invités.
Et évidemment, on vous remercie.
Et merci Patrick Jean d'avoir été si pertinent.
Vous nous appelez au 3216.
RMC, Top News, 100% Bachelot. Roselyne Bachelot.
On se retrouve autour de trois sujets et tous ceux que vous voudrez aborder. La grève des enseignants, est-ce que c'est pas un échec? Le lancement de l'iPhone 7, on nous prend pour des gogos. Et puis bravo à l'équipe de C'est à vous qui a détecté le caviardage du livre de Zemmour. Et j'ai tout de suite Charles. Bonjour Charles, vous êtes professeur des écoles à Créteil dans le Val-de-Marne. Et vous nous dites quoi de la grève des enseignants, Charles?
Eh bien, bonjour Madame Bachelot. Je soutiens tout à fait mes collègues du second degré pour la bonne raison qu'il n'y a pas de bon moment pour lutter. En France, j'ai l'impression qu'on a perdu un petit peu l'habitude d'avoir des gens qui luttaient. Alors, on se laisse impressionner par des casseurs.
Oh bah quand même, on a pas perdu l'habitude quand on voit les grèves qu'il y a eu et les manifestations qu'il y a eu sur la loi travail.
Laissez-moi finir.
Je vous laisse finir.
S'il vous plaît, Madame Bachelot. Vous avez des taxis qui bloquent à 400, même pas 300, qui bloquent l'aéroport. C'est jamais le bon moment, mais eux, on en parle. On voit des voitures renversées, on voit des bouchons énormes. Et là, on les fait entendre. Les agriculteurs, c'est la même chose. Avec un effectif fort peu nombreux, ils arrivent à parfaitement obtenir ce qu'ils veulent. Et puis, dans l'enseignement, ben, faudra faire grève sans déranger personne. Et même si les enseignants sont parfois très nombreux à faire grève, eh bien c'est jamais le bon moment ou ça sert à rien, ils ne sont jamais écoutés, il n'y a pas de dialogue, il n'y a que du mépris. On ne fait pas de réforme contre les gens en majorité, il y a une immense majorité de professeurs qui sont contre.
Et non mais Charles, loin de moi l'idée de nier le droit irrépressible, irréfragable de faire grève, mais il faut que ce soit une grève qui soit comprise de l'opinion publique. Ce que vous voulez, c'est aussi faire plier le gouvernement, c'est aussi convaincre l'opinion publique que votre combat est juste. Et là, vous êtes planté, enfin, dans la grève. Il y a 4% des enseignants qui font grève. Donc, au point de vue résultat, même si on est d'accord avec vous sur le diagnostic que vous faites, c'est à ses fruits qu'on juge un arbre. Et vous êtes planté, là.
Alors, effectivement, elle n'est peut-être pas suivie. Donc, déjà, c'est la première. Elle n'est pas parfaitement suivie, on est bien d'accord. Toujours est-il qu'il faut bien que l'opinion prenne conscience de ce qu'est en train de devenir le collège. Si c'est pour diluer des savoirs dans des goulbi-goulbas informes et incompris, si c'est pour fabriquer des élèves qui savent juste, qui n'ont plus de connaissances, c'est pour les Français qu'on travaille.
On est
au service de vous-même et moi-même, j'ai bénéficié d'une éducation en France formidable.
Et oui.
Qui a permis à des gens de changer de vie, de bénéficier de ce qu'on appelait l'ascenseur républicain.
Et il est
maintenant,
en panne.
Ben, il est complètement en panne. On pourrait même parler d'escalier républicain, parce que c'est jamais facile de s'extraire des classes populaires pour monter vers le haut.
Il y a de moins en moins, on voit.
Il y a de moins en
possible.
Moins. Donc vous avez des professeurs qui sont pas forcément des égoïstes incompétents, qui veulent que tout le monde ait accès
au
meilleur.
Mais j'ai pas dit ça, Charles. J'ai pas dit ça.
Et alors évidemment, forcément, il faut bien faire grève à un moment ou à un autre. Et pourquoi pas dès la rentrée? Et pourquoi pas dans une semaine? Vous savez, il va y en avoir certainement d'autres. De toute façon, il n'y a pas de dialogue. On dit que les Français ne veulent pas de réforme, mais à chaque fois, c'est pas une réforme, c'est une régression. Donc personne n'est pour la régression.
Écoutez, en tout cas, Charles, je suis heureuse d'avoir vous avoir donné l'occasion de vous exprimer sur ce sujet. Merci. On n'est pas d'accord tout en étant d'accord. C'est ça,
ça
Top News.
C'est
ça
possible.
Arrive.
Un autre appel au 32-16, celui de Geoffrey. Il a 35 ans. Il nous appelle de Bazincourt sur Epte. C'est dans l'heure.
Alors, bonjour Geoffrey.
Bonjour Madame Bachelot.
Alors, vous pouvez m'appeler Roselyne.
Eh ben écoutez, Roselyne, pas de souci. Donc je me permettais d'appeler pour réagir par rapport au petit débat qui a lieu sur le sexisme. Voilà, moi je me permets d'intervenir en tant que directeur de centre de loisirs, donc professionnel de l'enfance à un moment donné, et aussi papa de deux petits garçons. Mmh. Et qu'à un moment donné, par rapport à cette question-là, si vous voulez, c'est que moi j'ai l'impression de me battre contre des moulins avant, voyez-vous.
Ah, parce que vous constatez le sexisme dans votre activité de directeur de centre de loisirs et vous voyez que la solution avance, les solutions n'avancent pas?
Ben, si vous voulez, c'est, alors, moi, si vous voulez, c'est que j'inculque à mes enfants des valeurs où il n'y a rien de précis qui soit fait pour les garçons ou pour les filles. C'est-à-dire que moi, mes enfants, dans leurs jeux à la maison, ont des dinettes, ont des aspirateurs ou des choses comme ça.
Vous avez donné des dinettes et des aspirateurs à vos deux garçons? Bravo!
Bien sûr, madame Bachelot. Voyez-vous, et pour tout vous dire, super. J'ai la même chose au niveau du centre de loisirs. Je laisse les poupées en accès libre aux garçons et je me permettrai jamais de porter un jugement là-dessus. Par contre, quand j'ai mon garçon qui revient de l'école, et qui me dit ça, c'est un truc pour les filles, alors que c'est pas des choses que je lui inculque à la maison, c'est qu'à un moment donné, cette chose-là, elle est fortement entrée dans la société. Et que moi, j'ai beau me battre pour que mes enfants ne réagissent pas comme ça, si derrière, on sape toute l'éducation que je donne pour qu'ils reviennent avec des discours comme ça à la maison, si vous voulez, à un moment donné, j'ai l'impression que je me bats contre le vent, quoi.
Contre les moulins avant. Ah oui, Geoffrey, c'est vrai que c'est dur, mais continuez le combat, parce que plus il y aura de papas comme vous, plus les choses progresseront. Merci, Geoffrey, de votre témoignage.
En tout cas, il y a de l'espoir.
Oui, il y a de l'espoir.
Un autre appel au 32-16, celui d'Olivier, il est agent immobilier en Isère, et lui, il va passer pousser plutôt un coup de gueule.
Alors, attention, Olivier, coup de gueule, on va se castagner.
Non.
Alors,
on va revenir, on va pas se castagner, mais si vous voulez, j'ai quand même, par mon expérience, j'ai eu deux enfants, puis après une famille recomposée ou plusieurs, et j'ai eu l'occasion de croiser des filles adolescentes ou un peu plus âgées après, et je me suis rendu compte que c'est pas du tout, c'est pas si simple que ça, les filles sont tout aussi crues. C'est pas non plus des anges, c'est pas tout n'est pas blanc, tout
nous
n'est pas noir.
Nous ne sommes pas des anges, je confirme, Olivier.
Oui, mais tout le monde va le confirmer. Tous les gens qui nous écoutent vont savoir que s'ils ont côtoyé de près ou de loin une nièce, un cousin, enfin bref, ils savent que c'est pas si manichéen que ça. Il y a pas d'un côté les méchants, des gentils. Et je voulais rebondir sur quelque chose que j'ai entendu tout à l'heure quand vous parliez avec votre invité, qui disait, on dit qu'il y a du racisme noir, puis après on dit qu'il y a du racisme blanc, donc il y a pas de racisme. Non, c'est pas vrai, il y a du racisme de partout. Donc, ce qu'il faut, c'est pas essayer de comparer un rond avec un carré. Une femme et un homme, ce sont deux choses, deux êtres vivants qui méritent le respect, qui sont complémentaires. Et moi, j'adore les femmes m'enrichissent parce qu'elles sont différentes.
Non mais Olivier, je comprends très bien ce que vous dites en disant les filles sont aussi crues que les garçons et il peut y avoir également des phénomènes d'agression. Moi, ce que je veux dire quand même, c'est que la différence de salaire entre les hommes et les femmes, quand vous voyez quand même qu'il n'y a qu'une seule femme qui est patronne dans les entreprises du CAC 40, ça, ce sont des chiffres. Quand vous voyez qu'il y a seulement 16% des femmes qui sont mères dans notre société, ça, ce sont des chiffres. Alors bien sûr. Qu'il y ait des filles qui fassent de la gaudriole, j'en suis d'accord, Olivier, mais les discriminations, elles sont là, elles sont massives. Hein ?
Discrimination, essayer de parler d'une égalité dans une cour d'école, c'est une chose qui, à mon avis, n'est pas faisable. En revanche, et je vous suis complètement, et là, vous avez mon soutien total, c'est que, à travail égal, les femmes devraient gagner la même chose, devraient avoir les mêmes chances. Le plafond de verre devrait éclaté. Je suis complètement d'accord avec vous.
Merci Olivier, merci de votre témoignage.
Voilà.
Et on a vu arriver dans notre plateau un grand féministe.
Oui, tout à fait. Un homme, un tatoué, mais qui respecte les femmes.
Que je suis heureuse de saluer. Notre ami Vincent Moscato, Roselyne. Spécialiste de l'égalité homme-femme.
Tout à fait, j'ai 4 filles, Roselyne.
Ah là là.
Donc, l'égalité, il n'y en a pas beaucoup. Je la subis, moi, la pression féminine, tous les jours. Je suis le seul à pisser debout à la maison, Roselyne, je vous le dis.
Merci pour ce témoignage.
Intéressant.
Et tu vas nous parler alors de sportif femme?
Oui. Non.
Ça avait bien démarré.
Écoutez, c'est quand même une émission de mec. Hein. Non, bien sûr, quand on en reçoit beaucoup des nanas. Mais là, on va parler un peu du PSG parce que souhaitez-vous un PSG moins fort? C'est un peu un débat un peu curieux pour rééquilibrer le championnat. Ouais. Moi, je préférerais avoir des équipes meilleures qui
pourraient on va essayer de tirer dans le foot que les hommes. Hein.
Ouais, mais aux États-Unis.
Et en France,
bien sûr, le RCT. Alors oui, t'as raison, chaque année en Coupe d'Europe, extraordinaire. Dominguez est-il déjà condamné? Oui, c'est le super Moscato Show, Roselyne, c'est tout de suite.
Merci, Vincent. Nous, on se retrouve demain, Rémi.
Demain, 15h.
C'est sur RMC.